En fait, si on récapitule ce que je vous ai dit, l'important dans ce que je vous ai dit, c'est que on n'est pas seul au monde. Il y a plein de choses qui sont passées avant nous. Et d'un point de vue de vie, d'existence, on ne peut pas exister sans qu'il y ait un être qui nous fait exister. Enfin, c'est pas possible. C'est pas métaphysiquement possible, mais c'est pas même, au point de vue du bon sens, c'est pas possible qu'on ne vienne de rien. Et qu'on réfléchit 2 secondes, voyez, c'est une véritable propagande actuellement d'une minorité d'ailleurs, qui nous dit à longueur de documentaires, de machins, que tout s'est fait par hasard. Même Darwin était déiste. Hein. Au point, vous voyez, qu'il y en a quand même qui sont vicieux et qui, pour la version française, suppriment la mention de Dieu dans les écrits de Darwin. Parce que Darwin, lui, va énormément, comment dire, essayer de trouver des explications par le hasard et par la sélection naturelle, mais il admet que le matériel, les matériaux originels viennent du créateur. Donc il exagère tellement le hasard, la nécessité, n'est-ce pas, et la sélection naturelle, qu'il permet éventuellement d'arriver jusqu'à éliminer la cause, la première cause. Mais c'est pas possible. C'est trop compliqué. Le plus ne peut pas venir du moins. Alors, ce qui est intéressant pour le mariage, c'est que justement, si Dieu existe, et s'il est notre Père, notre Créateur, et que sur des siècles comme ça, il s'est occupé de nous, c'est qu'il va s'occuper de notre couple. Il va s'occuper de notre être. S'il nous a fait, vous voyez, s'il a fait notre corps, nos yeux, nos poumons, comment dire, il est l'auteur de la nature. Alors maintenant, il va falloir quand même justement se préciser ce qui nous relie à Dieu. Parce que si on n'a pas d'enfant, et si on est malade, si on a un cancer du sein à 35 ans, alors là, on est tous là. Alors, du bois, hein, j'ai touché du bois, c'est bon, on va devenir superstitieux là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ils veulent nous faire peur, tout ça, mais c'est pas possible. Et donc, comment ça se fait que si Dieu existe et qu'il est le créateur, le maître de toutes choses, il y a des choses qui aillent si mal, qui n'aillent pas normalement, qu'on puisse avoir un enfant malade et tout ça. Enfin, il faut l'expliquer. Et est-ce qu'il nous l'a expliqué? Est-ce qu'il nous a dit quelque chose de ce genre? Parce que dans les récits bibliques, pour l'instant, je ne vous ai parlé que de la création et du péché originel. Mais qu'est-ce qui se passe au péché originel? Dieu nous dit, puisque vous voulez exister sans moi, vous allez expérimenter la vie sans moi, au point que vous allez revenir à moi. Vous allez être malade, vous allez mourir, vous allez souffrir, vous allez travailler à la sueur de votre front. Vous allez tellement en baver que vous allez vous retourner vers moi. Alors vous dites, mais alors c'est un Dieu calculateur, épicier, qui... Non. Dieu nous dit, mais c'est vous qui l'avez demandé. Et c'est vous qui, de temps en temps, le demandez d'être libre et de ne pas dépendre de moi. Dans le même temps, il y a des personnes très, très pieuses, très croyantes, très pratiquantes, qui ont des cancers, qui ont des maladies, qui ont des épreuves et tout ça. On dit, ah ben alors, à quoi ça vous sert de croire en Dieu, d'être un ami de Dieu, si vous avez des maladies? Ce à quoi on va leur répondre, si Dieu ne protégeait que ses amis, ne donnait la santé, la prospérité qu'à ses amis, la vie sur Terre deviendrait un enfer. On serait tous dans l'hypocrisie permanente. Non, ça c'est pas l'explication. Alors, quelle explication? Explication qu'en nous donne la Bible, c'est pendant des siècles, donc l'homme a des enfants, forme des couples. Mais dès les premiers couples, Soit dit en passant, si nous venons d'un couple originel, les premiers frères et sœurs se sont mariés entre eux, parce que l'inceste est entre les parents et les enfants. On mélange des générations. Tandis que dans les frères et sœurs, on est égaux et on peut s'associer. Et Dieu a rapidement demandé à ce que l'amour sorte de la famille et soit interfamilial. Et qu'on cesse de se marier entre frères et sœurs, entre cousins et cousines. Actuellement, au risque de vous étonner pour ceux qui ne le savent pas, on peut se marier entre cousins germains.
Une dispense.
Oui, mais on peut. Aussi bien dans l'ordre de l'État que de l'ordre de l'Église. C'est très proche.
L'ordre de l'État, on peut faire plein de choses.
Ah non, pas frères et sœurs. Pas encore.
Pas encore.
Donc, mais en Allemagne, ils y réfléchissent sérieusement. Donc, cette vie de famille, elle se développe. Et je vous parle très rapidement de Noé, du déluge et de la tour de Babel. L'être humain se développe, a ses familles, et le premier meurtre a lieu, c'est-à-dire que parmi les enfants d'Adam et Ève, Caïn est jaloux de la bonté, de la gentillesse, de la sainteté de son frère Abel et l'assassine. C'est le premier meurtre de l'histoire humaine, hein, et c'est le premier mort. Adam et Ève, les autres enfants, sont devant un cadavre. C'est la première fois. Et c'est un cadavre qui n'est pas mort de mort naturelle, de maladie. Il est mort par meurtre. Et Caïn, lui, va s'enfuir, va fonder sa famille, et ses enfants seront les premiers polygames. C'est un homme dur. Ils prennent plusieurs femmes. Et sept patriarches plus loin, on arrive à Noé, qui a trois fils, Sem, Cam et Japheth. Les Sémites, les Africains et les Caucasiens, blancs et asiatiques, Japheth. Cam, les Africains. Sem, les Sémites, les Arabes, certains Arabes et les Hébreux. Ces trois fils sont monogames. Ils ont tous une épouse. Et quand Dieu décide de punir le péché, qui atteint des proportions jusqu'au sacrifice humain, c'est-à-dire que les hommes se sont détournés du Dieu d'Adam et adorent les démons. Et pour honorer les esprits démoniaques, tuent des bébés, brûlent des bébés. Et Dieu veut faire cesser ça de manière violente. Et c'est la décision du déluge. Noé, avec ses trois jeunes enfants, juste jeunes mariés, monte dans l'arche, et toute la région du Tigre et l'Euphrate est noyée. Et les hommes n'ont pas l'occasion de se sauver, de partir suffisamment loin. Vous voyez, ce n'est pas un déluge universel. Ce sont les concordistes ou certains évangéliques qui vont dire toute la terre est submergée. Bon. Donc ce sont des inondations, une pluie de 40 jours de pénitence. Les 40 jours, c'est toujours un signe de pénitence. Et tout le monde meurt, sauf ceux qui sont dans le bateau construit en pleine terre. Et toute la race humaine recommence à partir de Noé. Mais je passe vite, hein, parce que ce n'est pas nécessaire pour sauver son âme de croire dans ces passages bibliques qui sont pourtant, n'en déplaise à des commentateurs, à des exégètes modernes, considérés comme historiques, hein, dans la religion. Mais on passe vite, puisque c'est très attaqué. Bon. Les enfants de Noé se répartissent. L'un part dans le pays de Canaan, qui est le fils de Cam. L'autre part, donc il va vers l'Afrique. L'autre reste sur place et va en Arabie, ce sont les Sémites. Et l'autre part en Europe, ce sont les Caucasiens, le Caucase. Et comment dire, le péché revient. Et près de, comment dire, de la capitale de la... Quelle est la capitale de l'Irak actuellement déjà?
Bagdad.
Bagdad, n'est-ce pas? C'est Babylone. Les hommes, ils se sont, ont bien, comment dire, ont été très rancuniers vis-à-vis du déluge. Ceux qui se sont détournés de Dieu vont dire, eh bien, Dieu est notre ennemi, et notre persécuteur finalement.
C'est les descendants de Noé ou...
Descendants de Noé,
Ah oui.
mais les uns sont restés bons, d'autres se sont révoltés contre Dieu, et ils vont dire, eh bien, nous allons, Dieu, en fait, on a une relation toujours de bras de fer avec Dieu. On meurt, on se fait la guerre, on se déteste, on est malade. Qu'est-ce que c'est ce monde pourri que Dieu nous a fait? Donc nous devons réinventer le monde sans Dieu. Et pour montrer que nous sommes puissants sans Dieu, nous allons construire de notre intelligence une tour magnifique, une architecture magnifique. Vous savez, les sept merveilles du monde, hein, c'est des réalisations architecturales impressionnantes. Ils construisent cette tour. Et là, Dieu fait un miracle particulier. N'oubliez pas qu'on est dans la région, on est dans la descendance adamique. Ils ont tous la même langue. Celle qui a été dans les idiomes d'Adam, dans la pensée d'Adam. Et là, Dieu confond leur langage. Et ils se séparent. Et là, vous avez une description de séparation comment dire, de clans humains assez impressionnant à partir de Babel. Ils se dispersent. Et parmi ceux qui se dispersent, vous avez Abraham, qui est, lui, est d'une famille restée croyante. Et va être, comment dire, près du Tigre de l'Euphrate, justement près de la Babylonie, en Chaldée. Il est sémite et il descend de Sem par Héber. Il est hébreu. Et là où il est en Babylonie, on recommence les sacrifices humains, à tuer les bébés plus particulièrement. On les brûle, on fait des sacrifices. Et donc Abraham, lui, rejette ce culte des images démoniaques, de Baal, c'est une sorte d'immense statue à cornes dans lequel on jetait un bébé, parce que c'est une statue en bronze avec un foyer à l'intérieur et on jetait les bébés vivants dedans. Abraham refuse cette cruauté, cette horreur, croit en un Dieu père et alors qu'il est en train de prier, Dieu lui adresse la parole. Il lui dit, tu vas quitter la Chaldée et tu vas aller dans une terre où tu pourras grandir et tu me seras fidèle. Abraham part avec 300 bergers. C'est un riche éleveur, Abraham. Sa femme Sarah, c'est 300 employés. Ils partent en Terre Sainte. Ils font une pause et ils arrivent à, comment dire, sur le mont Sion. Ça vous dit quelque chose, les sionistes, Israël, voilà. Ils arrivent sur le mont Sion et, arrivé sur le mont Sion, Dieu lui parle à nouveau, lui dit qu'il va atteindre, qu'il sera récompensé de sa fidélité et que cette terre lui appartiendra pour qu'il puisse garder la foi et vivre en paix. Abraham entend la parole de Dieu, mais dit, mais j'ai ma femme est stérile. Et maintenant qu'on a tous les deux 80 ans, je ne vois pas quelle descendance on pourra, comment dire, on pourra avoir. Lui est encore fécond, les hommes peuvent être féconds très tard, et il prend une deuxième femme. Et Dieu lui dit, ça sera de ta femme, sous-entendu ta première femme légitime, et non pas ta femme de second rang, qui sera la génération. Et donc, le premier enfant qu'il a avec sa servante Agar s'appelle Ismaël. Et Ismaël est chassé lorsque va naître Isaac, le fils miraculeux de sa femme légitime. Ismaël va partir dans le désert, va partir en Arabie, et ça sera, si vous voulez, la souche des sémites arabes non-juifs, et dont la plupart sont devenus musulmans au 7e siècle. Donc dans le Coran, bien sûr, on dit que c'est Ismaël qui était le préféré d'Abraham et pas Isaac. Mais dans la Bible, Ismaël et sa mère Agar sont chassés. Et alors qu'Isaac grandit, Dieu lui dit, « Eh bien, tu vas m'offrir ton fils que je t'ai donné. » Pardon ? Il est parti de Chaldée par rapport à l'idolâtrie, et Dieu lui demande de sacrifier son enfant. Et saint Paul nous donne la clé de la prière d'Abraham et dit, c'est une épreuve que Dieu m'envoie et Dieu va ressusciter mon fils. Il veut voir ma résignation et mon abandon à sa volonté. Bon, attention, il faut savoir que l'époque est très cruelle et très dure, hein. Donc les âmes sont plus épaisses, hein. Une femme adultère, elle est lapidée, hein. On ne discute pas. Hein. Elle est tuée sur place, hein. Enfin, dès qu'on le sait, on la chope et on la tue. Hein. Dès que vous tuez quelqu'un, vous êtes tout de suite massacré dans les jours qui suivent. Hein. Il n'y a pas de grand jugement, d'avocat ou de... C'est la loi du talion. Hein. Et donc, et encore, la loi du talion est une amélioration, car en général, quand vous aviez un mort, on détruisait tout le village, hein, ou toute la famille du meurtrier. Et donc, Abraham part sur le mont Sion, et, prend son fils, prend du bois, demande à son fils de prendre le bois, il prend un couteau, et alors qu'il marche vers la montagne, et le fils lui dit et où est le bélier, ou le mouton, ou la vache, enfin, ce qu'on offre à Dieu pour le rendre propice. Eh bien, Dieu y pourvoira. Il ne lui dit pas, c'est toi mon fils. Hein. Et arrivé sur place, il fait un autel de pierre, et là il demande à son fils de monter dessus, après avoir disposé le bois. Alors là, le fils... se résigne à la volonté de son père, comme si vous, on vous obligeait à vous marier avec une personne que vous ne connaissez pas, vous dites, c'est mon père qui me l'a dit, c'est ma mère qui m'a dit. Et là, il se résigne à mourir, et alors qu'il va le tuer, et qu'il lève le couteau, un ange, se prend de la matière et se rend visible. Ils n'ont pas de corps, les anges, hein. Dès qu'ils sont visibles, c'est un hologramme ou un faux corps. Arrête le bras d'Abraham et désigne un bélier qui s'est pris les cornes dans les ronces. Et Abraham lui dit, Dieu lui dit, tu as accepté de me redonner ton fils que je t'avais donné. En récompense de ta fidélité, tu seras à l'origine d'un immense peuple, aussi nombreux que les étoiles de la mer, les étoiles du ciel et le sable de la mer. Et de fait, moi je ne suis pas sémite, beaucoup de personnes croient en la révélation d'Abraham, actuellement environ 3 milliards de personnes sur Terre. C'est beaucoup quand même, la moitié de l'humanité est inspirée par la vie d'Abraham. En théorie. Ensuite, c'est très très attaqué. Pourquoi c'est très attaqué ? Ben parce que c'est justement cruel. Sauf que Dieu justement ne va pas jusqu'au bout. Et il y a une relation de père à fils qu'on va retrouver entre le Père et Jésus. C'est une prophétie de ce qui va arriver sur la croix. Et donc, Abraham revient, il a Isaac avec lui, et il y a un épisode particulier que je ne laisse pas, parce que je vais aller plus vite, c'est lorsque son neveu, Lot, est enlevé par des rois locaux. Un roi à l'époque, c'est le prince d'une cité, hein, et des alentours. Donc il y a cinq petits roitelets qui attaquent Sodome et Gomorre, où Lot habite, et ils l'emmènent. Alors, Abraham, avec ses bergers, va attaquer l'armée de ces cinq roitelets. Donc ça veut dire qu'avec 300 hommes, il peut défaire cinq petits rois. Et il revient, et en passant par Salem, la ville des Jésubéens, la future Jérusalem, il rencontre le roi de Jérusalem, de Salem, qui s'appelle Melchisédek, roi de paix. Et ils prient ensemble. Melchisédek n'est pas idolâtre, il est de la religion adamique. Et Abraham lui donne 10% des dépouilles des rois, des petits roitelets, hein, du butin qu'il a eu en les chassant. Il reconnaît la religion de Melchisédek comme la sienne. C'est très important, ça. C'est quoi? C'est la religion adamique. C'est l'existence de Dieu, pas de sacrifice humain, et la prière. Et qu'est-ce qu'offre Melchisédek? Du pain et du vin. Ce sont des hosties, des offrandes pacifiques. Il n'y a pas de sang. Voilà, Abraham revient, et là je vous le fais plus court. Mais attention, polygamie, lapidation des adultères. Ouais. Donc la femme vient de plus en plus perdre sa situation de compagne de l'homme. Et devient de plus en plus un objet de puissance patriarcale, de puissance d'enfant, de postérité. Et il n'y a plus cet amour fondamental et spirituel, il se dilue dans la polygamie. Or, l'amour entre l'homme et la femme est symbole de l'amour entre Dieu et la créature. Et qu'est-ce qui est promis à Abraham, Isaac, à Jacob, qui devient Israël parce qu'il a, dans une prière, il a été béni par un ange qu'il a appelé Israël. Ça vous dit quelque chose, Israël, peut-être? Non? Si vous faites un peu de politique, ou si vous écoutez la radio. Et donc, Jacob Israël a 12 enfants, 12 tribus, et il y a une famine en Terre Sainte, dans toute la région, jusqu'en Syrie, jusqu'en Babylonie, et seule l'Égypte a été, grâce à un fils de Jacob Israël, Joseph, fait 7 ans de provisions pour les vaches grasses, par rapport aux 7 ans de famine, les vaches maigres. L'expression vient de la Bible. Et donc, pendant 400 ans, Jacob Israël et ses enfants donc vont se réfugier en Égypte du Nord et vont rester là 400 ans. Au bout de 400 ans, les femmes juives sont extrêmement fécondes et les Égyptiens veulent les tuer. Tuer les bébés mâles. Tous les bébés mâles sont tués systématiquement par les Égyptiens au bout de 420 ans de présence des Juifs en Égypte du Nord. C'est une injustice parce que les Juifs sont très calmes, sont des éleveurs et n'inquiètent pas du tout les Égyptiens, ne portent aucune arme. Bon. Dieu envoie Moïse pour dire à Pharaon, le roi d'Égypte, de laisser le peuple hébreu partir.
Les Hébreux étaient esclaves à ce moment-là ou...
Oui, ils étaient éleveurs et puis ils étaient maltraités, grevés d'impôts. On exigeait qu'ils construisent tous les bâtiments, enfin beaucoup de bâtiments égyptiens parmi d'autres esclaves. Et ils ont été réduits en esclavage dans le sens où ils étaient réduits à travailler pour les Égyptiens de manière excessive. Ce qui fait que lorsqu'ils ont commencé à tuer les bébés, Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte. Et dans ces 10 plaies d'Égypte, vous avez une punition divine qui est la mort de tous les premiers-nés égyptiens dans la nuit du départ du peuple hébreu. Dans cette nuit du départ du peuple hébreu, Moïse dit au peuple de prendre un petit anneau d'un an, tout blanc, et de mettre le sang de cet agneau sur les portes et de le manger en famille. C'est le passage de l'ange exterminateur qui va punir les Égyptiens et qui va être le passage du peuple hébreu qui va quitter l'Égypte, passer le bras de mer de manière miraculeuse, mais j'insiste pas. Ce passage de la persécution, de la mort à la vie. Ce mot passage se dit en hébreu Pâques. C'est la Pâque. On passe de l'épreuve, de l'esclavage, de la mort à la vie. Je passe sur les 40 ans au désert parce que les Hébreux avaient fini par murmurer contre Dieu. Ils rentrent en Terre Sainte et jusqu'au Christ, ils vont sacrifier un agneau d'un an tous les ans au temple de Jérusalem. Et ce sang de l'agneau les protège contre la mort. Alors vous allez me dire, mais enfin, les Hébreux pendant des siècles ont continué à être malades et à mourir. Oui, mais c'était la promesse du salut à travers ce petit agneau. La promesse du Sauveur avec les prophètes qui leur disent « Va venir le Sauveur, va venir le Sauveur ». Le peuple hébreu a une histoire comment dire, de fidélité, d'infidélité, d'invasion, de liberté, pendant des siècles. Le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, va être choisi pour gouverner les 12 tribus. Les prophètes vont dire « Le Sauveur, il viendra de la race royale de David. Il va naître à Bethléem. » Enfin, ils le disent quand même 600 ans avant Jésus-Christ. Mais 600 ans après, quand le roi Hérode, qui n'est pas juif, qui est iduméen, qui est descendant d'Ismaël, qui est sémite, puisqu'il est descendant d'Abraham, il est descendant par Ismaël, qui va être sur le trône de David, alors qu'il n'est pas de la famille royale de David. Quand les rois mages, qui sont des rois de petites cités, versés dans la science, l'histoire, l'étude, ils ont lu la Bible, ils ont lu les écrits des Juifs, ils ont lu les prophètes des Juifs. Et ils arrivent et disent, nous croyons que le sauveur des Juifs est le sauveur du monde entier, nous qui ne sommes pas Juifs. Où va-t-il naître? Et Hérode, qui s'est instruit bien sûr de la religion juive pour être leur roi, mais qui ne connaît pas tout, demande aux prêtres du temple de Jérusalem. Et les prêtres du temple de Jérusalem disent, d'après nos écritures, il va naître à Bethléem. Alors le roi Hérode dit au roi mage d'aller à Bethléem. Ils vont à Bethléem, mais les rois ne reviennent pas. Il ne peut pas savoir qui est cet enfant. Donc il envoie ses soldats pour tuer tous les bébés et les enfants de Bethléem, de 0 à 2 ans, puisque les rois mages s'étaient mis en route 2 ans avant. Donc d'après le récit des rois, et nous sommes partis à la quête de ce sauveur il y a 2 ans, en faisant des haltes et en suivant une étoile qui est apparue. Nous qui connaissions le ciel par cœur, nous suivions le tracé de cette étoile. Et donc Hérode fait mourir les enfants pour être sûr que la descendance de David ne donne pas de roi concurrent à lui. Donc voyez-vous, par rapport aux hindous qui croient en une multitude de petites puissances, qui croient par exemple que Dieu peut être un éléphant. Pourquoi? Parce que les éléphants sont providentiels dans leur pays. Ils les aident à toutes sortes de travaux. Donc quand ils ont inventé leur religion, ils ont imaginé que leur Dieu fondateur qui tuait tous ses enfants systématiquement... À un moment donné, sa femme lui a dit quand même, c'est pas celui-là, tu pourrais le laisser vivre. Et l'autre lui a dit, bon, eh ben, le premier être que tu rencontres, tu lui coupes la tête, tu la mets sur le corps de l'enfant, et il renaîtra. Il revivra. Donc elle tombe nez à nez avec un éléphant, et donc elle met une tête d'éléphant sur la tête de son fils. Et voyez-vous, tout cela, même s'il y a aussi beaucoup de miracles dans la Bible, il n'y a pas de mythe. Oui, de choses, un dieu éléphant ou des dieux avec des corps. Quelle est la grande épreuve pour les Juifs, pour le peuple hébreu? Quelle est leur grande épreuve pour ces peuples sémitiques? C'est que Dieu prenne un corps humain, comme dans les religions idolâtriques ou les religions grecques ou romaines, où ils avaient divinisé des empereurs ou des démiurges, Hercule et compagnie. Sauf que là, il n'y en a pas 1 000 des dieux. Il n'y en a qu'un seul, et qui se fait homme. Et il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est la sagesse éternelle du Père, la pensée éternelle du Père. Alors, qui est ce Dieu, alors, cet esprit? Eh bien, voyez-vous, Dieu dans son éternité, c'est un être spirituel, il n'a pas de corps, il est pur esprit. Il se pense, il se regarde, il réfléchit. Il est le miroir de sa substance. Alors vous allez me dire, il est complètement narcissique, Dieu. Enfin, vous aussi, vous réfléchissez, non? Sans forcément être narcissique, vous pensez à ce que vous êtes et ce que vous faites. Le narcissisme, c'est de se tourner totalement vers soi. Que Dieu se conçoive, soit conscient de lui-même, c'est pas un défaut de la part de Dieu. Eh bien, cette pensée éternelle, elle est coéternelle à à son être profond. Il se pense. Eh bien, cette pensée éternelle, Dieu l'appelle son fils. Il engendre sa pensée. Oui.
Pourquoi les, enfin pourquoi, peut-être pas la réponse, mais pourquoi les Juifs ne le reconnaissent pas à ce moment-là?
Mais parce
Pourquoi
que
les
il
Juifs
se fait homme.
oui,
C'est une idole,
je sais
c'est
bien, mais
une créature, c'est pas possible.
pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas que le fait qu'ils se fassent, enfin c'est toute
Que
la,
Dieu se
c'est
fasse
tout
homme,
le schisme en
c'est
fait.
humiliant. Dieu peut pas. Il est tout-puissant, il est pur esprit, il est éternel, il peut pas se moucher. Il peut pas faire caca, il peut pas être lavé par une maman, il peut pas dormir, c'est pas possible. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que la nature humaine et la nature divine soient unies sans être mélangées, mais soient assumées dans un ensemble qui fait la personne de Jésus. Pour eux, il n'est pas possible que Dieu s'incarne. C'est de l'idolâtrie, c'est de la mythologie gréco-latine.
Et c'est quoi le Messie pour eux alors?
Le Messie, c'est un juif, c'est un général en chef, c'est un président de la République qui leur donne un pouvoir miraculeux pendant des siècles, pour toujours. D'ailleurs, actuellement, vous avez des juifs sionistes qui sont complètement comme ça, qui ne pensent qu'à une seule chose. Vous savez où est construite la mosquée d'Al-Aqsa, où Mahomet, dans les années 620, récupère la religion juive, récupère la religion chrétienne, retire à Jésus sa divinité, dit qu'il est le dernier prophète, dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais que Jésus est un prophète qui reviendra à la fin des temps pour vaincre le triomphe du mal dans l'image de l'Antéchrist. L'Antéchrist est aussi une figure coranique. Mais Mahomet est celui qui donne la totale révélation. Eh bien, la mosquée d'Al-Aqsa est construite sur le rocher où Abraham a failli sacrifier Isaac. Comment?
Sur le mont
Sur
Sion.
le mont Sion. Et pour les musulmans, c'est Ismaël qui a failli être sacrifié sur ce même rocher. Pour les juifs et les chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, c'est Isaac. Pour les musulmans, vu que c'est un homme du désert, qui a fait la guerre toute sa vie, qui a peut-être eu des voix, mais que nous qu'on considère comme, pas comme un prophète ni venant de Dieu, qui permet 600 ans après Jésus la polygamie, alors que Jésus va dire plus de polygamie. Dès le commencement, l'homme et la femme quittent leur mère et leur père, s'unissent et ils ne peuvent pas se séparer. Et les juifs, les apôtres, les 12 apôtres disent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux pas se marier. C'est ce que disent. On ne sait même pas quel apôtre l'a dit. Tous en chœur. Ils disent, oh, Si on ne peut pas renvoyer sa femme, il vaut mieux pas se marier. Et Jésus lui dit non. Et là, on est face à un nœud. Voyez.
Il y avait des juifs qui vivaient pas la polygamie quand même avant.
Ah, mais la polygamie était tombée en désuétude au temps du Christ.
Ah oui.
Et actuellement, les juifs sont pas polygames. Ils pourraient l'être, mais ils ne le font pas.
Pourquoi?
Parce
Pourquoi
qu'ils trouvent ça mauvais. C'est une permission à la faiblesse humaine. Et donc, ils veulent surmonter cette faiblesse et ne pas être polygames.
Polygame, c'est avoir plusieurs
plusieurs femmes.
femmes. Oui, mais en même temps, mais ils peuvent divorcer ou...
Ah, ils peuvent divorcer. Ils peuvent répudier.
Ils peuvent répudier.
Ils ne peuvent pas divorcer, ils peuvent répudier. Les femmes juives, quand elles sont pratiquantes et croyantes, ont un acte de répudiation de la part de leur mari, même si elles sont à l'origine de la séparation. C'est toujours l'homme qui renvoie sa femme. Même si c'est la femme qui dit « Je peux plus te supporter, on divorce, on sépare et tout », elle va voir un avocat, elle se sépare civilement. Mais quand on va voir le rabbin demande au mari « Vous la répudiez ». Une femme ne peut pas répudier son mari.
Ils peuvent entre guillemets...
Se remarier?
Ouais.
En soi, oui, mais c'est difficile. Mais comme depuis le Christ, lui, de toute façon, supprime le divorce pour tous les peuples. C'est-à-dire que le lien naturel entre deux non-baptisés est consacré par Jésus il y a 2000 ans. Parce que Jésus n'est pas seulement le Messie du peuple juif, il est Dieu. Il est législateur universel. Il dit, tout homme, toute femme doit porter l'amour, et s'il est abandonné, porter héroïquement l'amour. Alors, les nullités de mariage, c'est quand le mariage a un très très grave défaut dès le début, dès les consentements. Et c'est la seule manière éventuellement de considérer que le mariage n'a pas été, ne s'est pas formé.
Quels sont les défauts?
Défaut de liberté,
D'accord.
défaut contre la fidélité, l'unité et l'ouverture à la vie. Si un des deux mariés dit en fait, j'ai jamais voulu avoir d'enfant, j'ai joué la comédie, mais non, 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 on n'aura pas d'enfant, eh bien le mariage est nul. D'abord pour mensonge, pour dol, parce qu'on doit dire dès le début qu'on ne veut pas d'enfant, à ce moment-là, on ne peut pas se marier religieusement si on ne désire absolument pas d'enfant. C'est pas... Qu'on ait la faiblesse de la contraception, et ça, on en parlera, il y aura une séance sur la fécondité.
Et le lien, le mariage qu'on appelle aujourd'hui civil,
Il n'a de valeur que si il est fait en vérité. Or, les croyants, normalement, s'ils ont un rite religieux, le rite civil n'a aucune valeur. Mais ceux qui n'ont pas de rite particulier se marient naturellement à la mairie.
Mais ça a de la valeur
Ou une
aux yeux
valeur
de Dieu?
civique?
Non, une valeur naturelle.
Si t'es pas baptisé, ça
Si
t'engage pour
un
toujours.
homme, une femme qui n'ont pas de religion particulière, ils ont leur nature, et leur nature les appelle à s'aimer jusqu'à s'entraider vieillards et à entourer leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est la nature. Donc on se marie validement à la mairie si on n'est pas croyant.
Mais nous qui sommes religieux, le mariage civil a quand même une valeur. Pas religieuse, mais civique.
Reconnaissance sociale.
Et civique, ça nous fait quand même passer
Oui,
de
civique.
mademoiselle à monsieur
Oui, mais c'est la reconnaissance sociale.
Non.
Il y a... Ça, dans la théorie du genre, oui. Plus tard,
madame,
dans 5 dans ans.
Non, mais c'est quand même...
Ça arrive. Au Canada, c'est déjà le cas. Ils proposent aux enfants au collège, ils leur demandent s'ils veulent être garçons, filles ou ni l'un ni l'autre. Au collège.
Mademoiselle, ça n'existe plus dans notre langue.
Oui,
Si,
bon.
si, ça existe toujours.
Si, si, ça existe.
Non, mais ça, c'est plus reconnu.
Et mais il y a des pays,
C'est dommage.
il y a des pays où le mariage religieux a les effets civils.
Comme l'Espagne.
On ne fait pas bégayer.
On fait pas.
Bégayer l'échange des consentements.
Bah,
Ben,
deux fois.
oui, oui.
Oui, deux fois, quoi.
On dit oui deux fois, ça n'a pas de sens. C'est vexatoire. de nous demander. Alors, comme on est habitué, on se rend plus compte. Ah, j'ai dit oui à la mairie et j'ai dit oui à l'église. On dit oui qu'une seule fois dans sa vie.
Alors, donc, pourquoi l'église en France,
parce qu'elle résiste à un rite civil.
D'accord. Parce que là, on est obligé d'être marié.
C'est une matière religieuse, le mariage. C'est pas une matière civile. Donc l'Église résiste.
Non, on est obligé parce que c'est l'État qui nous oblige.
Ouais. Oui, c'est l'État en France qui nous oblige. D'accord. Mais en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Pays de Galles, en Angleterre,
au
Portugal.
Pour les Marocains.
Voilà.
Ah,
au Liban, il n'y a pas de mariage civil.
Ah bon ? Non.
Si, maintenant il existe. Mais uniquement pour ceux qui se déclarent athées. Ni musulmans, ni chrétiens, ni kurdes, ni druzes. Il y a trois religions reconnues par l'État au Liban. Si on n'est d'aucune des trois, on peut se marier civilement, mais on est regardé comme des êtres étranges. Hein, parce que ne pas croire en l'existence de Dieu, c'est inimaginable pour eux. Mais alors, voyez-vous, le problème de la religion, c'est de savoir... Alors... Est-ce que Jésus est le fils de Dieu ? Les juifs et les musulmans disent que non. Alors, d'où l'importance des évangiles, des miracles. D'où l'importance, c'est pas grâce à vous, mais parce que j'en parle toujours. En 1916, vous avez trois bergers, François, Jacinthe et Lucie, qui sont en train de s'occuper de leurs troupeaux. Ce sont des trois petits Portugais assez pieux, dans la plaine de Fatima. D'ailleurs, Fatima, c'est une princesse musulmane qui s'est convertie. Et donc, ce sont des signes pour le futur, parce que la guerre qui va avoir lieu là, avec les pays musulmans et les pays arabes, elle sera d'une telle ampleur que des questions religieuses... Les prétextes religieux existent, mais les âmes, individuellement, ils se poseront bien des questions. Et dans le malheur et dans l'horreur qu'ils vivront, la Vierge Marie s'occupera des musulmans hein, et leur donnera un peu d'espérance. Je ferme la parenthèse politico-religieuse. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Fatima ? Vous avez un ange qui apparaît aux trois enfants en 1916. Et qui leur dit, il faut être mignon, pieux, gentil avec vos parents, obéissant et tout et tout. Vous voyez, c'est un ange qui leur dit. Mais l'ange apparaît en toge blanche, sans ailes. À un moment donné, quand même, les enfants lui posent la question, je ne sais plus à quel moment, et il dit, je suis l'ange du Portugal. C'est-à-dire qu'il n'est pas un ange gardien. C'est-à-dire un ange gardien, c'est un ange qui a la mission... d'influencer et de faire de son mieux pour qu'une âme soit dans l'amour. Et il y a un ange par âme. C'est mon bon ange gardien veille sur moi, la petite prière quotidienne. Et là, c'est un ange qui s'occupe de tout un pays, de toute une communauté. Et dans la Bible, à un moment donné, vous aviez l'ange de la Perse. Qui s'affrontait à Saint-Michel, qui était l'ange du peuple hébreu. Je suis l'ange du Portugal. Et il va les préparer à la première communion. En fait, il les prépare à rencontrer Marie, il les sanctifie. Et à un moment donné, il va apparaître avec un ciboire et il va donner la communion avec des vraies hosties aux trois enfants. Et quelques mois plus tard, c'est la Vierge Marie qui apparaît aux trois enfants. Alors, on va les croire, on va pas les croire. À l'époque, il y a une dictature communiste au Portugal. Ils vont être mis en prison. Ils vont pas changer d'avis. Ils vont résister à la peur. On leur dit qu'ils vont rester en prison et tout ça. Enfin, c'est pour des enfants hein, d'être mis en prison, même pour quelques heures ou quelques jours, c'est affreux. Ils changent pas d'avis. Ils résistent à toutes les pressions. Et ils disent aux gens, la dame nous a dit qu'elle va obtenir un miracle de son fils le 13 octobre pour prouver la vérité de ces apparitions. Donc les gens arrivent de loin, il y aura jusqu'à 40 000 à 70 000 personnes dans la plaine de Fatima. Il va pleuvoir toute la nuit parce que le bon Dieu a beaucoup d'humour. Et donc il a plu, les gens sont étrempés dans la boue et tout ça. Le jour arrive, les trois enfants sont là et ils disent « La voilà !» Donc les branches du chêne s'inclinent et eux voyaient une sphère lumineuse où la Vierge Marie était au centre.
Les enfants uniquement.
Et tout d'un coup, oui, mais les gens voyaient les. Oui. Et tout d'un coup, la Vierge Marie ouvre les bras et les enfants disent maintenant. Et tout d'un coup, vous avez la lumière du soleil qui se décroche. L'orbe solaire qui part à toute vitesse, à gauche, à droite, qui monte, qui descend, et qui décrit des cercles dans le ciel de manière délirante. Les gens ont tous vu la même chose, ce qu'on a appelé la danse du soleil. Au bout de quelques minutes, le soleil s'arrête et va vers la terre à toute vitesse. Et donc les gens voient l'orbe solaire grossir vers eux, et une chaleur de plus en plus intense. Alors que je pense que le bon Dieu a fait ce miracle de manière lumineuse. Et qu'il n'a pas maintenu tout le système solaire pendant qu'il faisait bouger le soleil pour les habitants de Fatima. D'autant plus que ce miracle n'a été vu qu'à 10 km à la ronde. Enfin, il y a 40 000 personnes qui l'ont vu. Le soleil s'arrête et reprend sa place. Et petit miracle dans le miracle. Donc les gens s'étaient mis à genoux, avaient prié, s'étaient dit c'était la fin du monde. Ils sont heureux d'être vivants. Et tout d'un coup, les gens se regardent les uns les autres. Le sol est sec. Et eux sont secs. Leurs vêtements sont secs.
Il y a des photos de Fatima.
Et des photos de Fatima, c'est très très impressionnant. Et vous avez des journalistes qui étaient athées, francs-maçons, tout ça, qui se sont convertis à Fatima. Parce que bon, ce phénomène météorologique ne s'est jamais reproduit depuis. Voilà.
Mais c'est pas une image.
Non, mais c'est. Alors, vous aviez les 40 000 têtes qui faisaient ça, quoi. C'était tout autour d'eux. Et à la fin du miracle solaire, ce dont on parle peu, c'est que les enfants ont vu la Vierge Marie avec le corps de son fils entre ses mains en hologramme immense dans le ciel. La Vierge Marie avec l'enfant Jésus et Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Trois images immenses dans le ciel. Et voilà. Alors nous là-dedans, on croit que Dieu s'est fait homme, qu'il a été un petit bébé dépendant de sa maman, un père adoptif qui comprend pas au début de qui est cet enfant, mais qui rentre dans la révélation angélique et qui accepte, surtout lorsque les bergers viennent et qui disent « Nous avons vu des esprits lumineux nous dire que le Sauveur et que le descendant de David était né. » Marie et Joseph ont une révélation angélique personnelle, mais là vous avez les bergers qui disent « Nous avons vu des esprits angéliques qui nous ont dit que le Messie était né. Il est où ?» Alors eux, ils sont là, ils sont très humbles, ils sont pauvres. Ceux qui offrent pour l'enfant qui vient de naître une paire de colombes au temple de Jérusalem, c'est ceux qui ne peuvent pas s'offrir un mouton, un agneau. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas acheter un agneau. Il était pourtant ébéniste, il était charpentier. Mais il ne gagnait pas assez pour s'offrir un mouton. Ça coûtait cher, un mouton. Et donc le Christ va grandir, et le premier miracle qu'il va faire, c'est lors d'un mariage. Vous avez le prophète Jean-Baptiste, quand il voit venir le Christ, dit « C'est l'agneau de Dieu ». Or, de ce que je vous ai dit, un résumé de toute la foi en 2 heures, c'est l'agneau de Dieu pour les Juifs, c'est l'agneau pascal. C'est quoi ? C'est pas un agneau, il ressemble pas à un agneau. C'est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui va mourir à la place de l'agneau de la nuit pascale. C'est lui le véritable agneau. voyez, alors pour les juifs, c'est, tout ça, ça se percute. Et Jean-Baptiste dit, je suis l'ami de l'époux. J'entends la voix de l'époux. Et il vient jusqu'à moi. Et voyez-vous, ça, c'est assez impressionnant, parce que l'incarnation, c'est le mariage entre la nature divine et la nature humaine. Et Jésus est là pour nous signifier un amour éternel entre Dieu et ses créatures et ses enfants. Vous voyez, et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous marions en Jésus-Christ, c'est que nous marions dans un amour qui est d'une fidélité d'âge en âge, de siècle en siècle. Et donc, si vous voulez, nous développerons cela la prochaine fois, parce que c'est déjà énorme ce que je vous ai dit. Et je vais terminer sur le mariage lui-même. Vous voyez. Qu'est-ce que nous dit le mariage ? Le mariage nous dit, un amour entre deux êtres, deux personnes. Un amour dans la nature humaine, c'est-à-dire avec une nature sexuée. Alors vous dites, il ne peut pas y avoir de mariage entre deux femmes ou deux hommes ? Fondamentalement, non. Il peut y avoir une très très grande amitié, mais qui dérape dans une sensualité corporelle. Mais cette amitié, elle est stérile, corporellement. Mais elle peut être féconde dans tout ce que l'amitié peut avoir de construction et de belles constructions. J'espère que vous avez des amis, des gens à qui vous vous confiez, qui sont... C'est sûr que lorsqu'on se marie, on commence à quitter certains de ses amis. Et l'épouse ou l'époux, parfois, rentre en concurrence avec un ami ou une amie. Vous voyez, moi, dans ma vie, actuellement, j'ai deux amis. D'enfance. Mais d'enfance de lycée, 16 ans et 19 ans. Oui. Mais on ne s'est jamais quitté. Les deux sont mariés, mais c'est, si vous voulez, du... On peut ne pas s'appeler pendant 3 mois et c'est immédiat. Et c'est surtout une très grande complicité, une très bonne communion de pensée. Oui. Mais vous voyez, je ne m'imagine pas tricher avec mon corps et dire je suis en mariage avec un homme. Parce que la différence sexuelle est riche d'une fécondité d'abord spirituelle, parce qu'on peut être stérile, on peut ne pas avoir d'enfant et être vraiment marié. C'est la raison pour laquelle nous verrons la prochaine fois que Dieu compare beaucoup son amour à un mariage avec l'humanité. Et qu'il nous poursuit comme un époux poursuit son épouse. Voyez. Et que si nous avions le moindre un peu de mysticisme, on traverserait les scandales de la maladie, des enfants, des guerres, des catastrophes naturelles. Et on se dirait, Dieu m'aime, et même l'incarnation est une preuve d'amour dans le sens où Dieu va partager notre vie dans ce qu'elle a de plus fragile et accepter de mourir dans la nature humaine qu'il a assumée. La plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est que Dieu, qui s'est fait homme, se laisse tuer par ses frères et sœurs, par ses enfants et ses frères et sœurs. Par pitié pour eux, il ne se défend pas, il ne les écrase pas, lorsque par jalousie et par haine, on tue celui qu'on jalouse. Il ne vous est jamais arrivé d'être jaloux et de vouloir que quelqu'un, que quelque chose de mal se passe à quelqu'un, mais très légèrement. Peut-être que ça vous est arrivé enfant et que vous l'avez oublié, vous voyez. Ah, celle-là, mais j'espère qu'elle va avoir une mauvaise note. Mais vous lui voulez du mal. Mais le plus grand mal qu'on peut vouloir à quelqu'un, sur Terre, c'est de le tuer. Mais le plus grand... Oui ?
C'est pas de ne pas avoir d'amour.
Le vrai mal, c'est de ne pas aimer. Parce que les martyrs, on les tue, on les coupe en morceaux, tout machin, ils sont heureux, ils sourient. Vous voyez ? Donc il y a un truc. On n'arrive pas à leur faire du mal, parce que le vrai mal, c'est de ne pas aimer. Parce que notre nature spirituelle, et je termine par là où j'ai commencé, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons une capacité fondamentale et naturelle à comprendre et aimer. On ne peut pas s'en empêcher. C'est pour ça que Lucifer aime. Oui.
Ça, c'est vrai pour tous les esprits. Il ne peut pas y avoir des esprits.
Tous les esprits.
Il y a forcément un
Lucifer, problème. Lucifer souffre horriblement de haïr. Au point qu'il y a même des théologiens qui disent il va se convertir à la fin des temps, plus tard, c'est pas possible. C'est contre nature pour un esprit de haïr.
Mais il ne pourrait pas y avoir des esprits qui n'aiment pas et qui haïssent pas, juste ils comprennent, mais sans avoir...
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Des ordinateurs.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Mais même l'ordinateur ne se rend pas compte de ses connaissances. Donc c'est
oui. Pas... Non, mais un esprit qui serait comme ça, purement...
Non, non. Dès qu'on comprend, ou on aime, ou on n'aime pas. On ne peut pas s'en empêcher. C'est notre nature. Et donc les démons sont extrêmement malheureux. Et les damnés aussi.
Parce qu'ils sont incapables d'aimer.
Parce que fondamentalement, leur nature veut aimer et ils ne veulent pas aimer. Ils sont pas malgré eux. Ils contre leur nature à tout moment. C'est comme celui qui se met en colère injustement parce qu'il veut l'argent de l'autre et il veut le tuer parce qu'il veut son argent. Il sait qu'il a tort.
Oui, mais notre nature, on peut la changer.
Non. C'est la raison pour laquelle les damnés souffrent et la raison pour laquelle les démons souffrent. Ils ont une nature qui a été faite pour aimer et le fait de choisir la haine à tout moment, dans une volonté libre et inexorable, les déchire en permanence. Ils ne sont jamais en paix. Jamais.
Parce qu'ils sont déchus.
Parce que leur nature lutte sans arrêt contre leur choix.
Et est-ce que les démons peuvent avoir des pensées peuvent quand même ont quand même la capacité d'aimer, donc est-ce que les démons peuvent repasser vers les bons anges?
Non.
Parce qu'ils sont trop...
Dieu nous l'a révélé, ouais. Et nous quand on dit c'est pas possible, oh, ben, à un moment donné il va se laisser toucher, il va devenir gentil le démon.
Non, c'est pas ça, c'est que mon Dieu est miséricordieux aussi. Non.
Oui, mais eux veulent pas.
Et pourtant il y a des gens qui tuent, qui ensuite se repentent.
Oui, mais les démons sont pure intelligence, ils n'ont pas de doute dans leurs actes. Tandis que nous ne sommes pas certains, absolument, nous n'avons pas une limpidité d'esprit telle que nos actes soient irrémédiables.
Oui, mais préalablement à avoir suivi Lucifer, ils aimaient ou quoi qu'il arrive, dès le départ, dès que...
Ils aimaient. Lucifer a été créé dans l'amour, mais pas dans la vision directe de Dieu. Si on voit Dieu, si Dieu nous révèle sa beauté essentielle, on ne peut plus le quitter.
Et actuellement, est-ce qu'il y a Dieu crée encore des anges?
Non.
Non. Ils ont été créés. Non, mais si.
Ils ont été créés.
Ok. Mais donc, nos anges gardiens, ils sont désignés. Il y en a une multitude, et ils sont désignés par Dieu à la naissance d'un enfant pour aller protéger.
À la conception d'un
enfant. À la conception d'un enfant. Oui. Et donc, il y en a une multitude.
Une multitude.
D'accord. C'est de l'infini, quoi. C'est de l'ordre de l'infini.
Oui. Enfin, pas de l'infini, mais.
Des myriades.
Des myriades. Ça veut dire milliards de milliards.
Ils sont connus par Dieu, en fait.
Voilà.
Oui, oui.
Et comme ils n'ont pas de corps, ça prend pas de place. Il peut y avoir 3 milliards d'anges ouais. Dans cet espace-là.
C'est cool, ça.
Non, mais ils n'ont pas de corps. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand ils apparaissent, ben oui, mais c'est pour nous qu'ils apparaissent. Vous voyez, par exemple, vous avez cette histoire d'une femme qui a traversé un parc public, et le lendemain, titre de journaux, une femme a été assassinée dans ce parc. Elle se porte témoin, elle a dit « j'ai rencontré un homme qui avait l'air bizarre, en effet, on va le confronter à vous ». Et elle le reconnaît, et en effet, c'est celui qui était soupçonné, tout ça. Bon. Et donc, mais dans la confrontation, il y avait une vitre sans teint. Enfin, j'imagine ce détail, mais le fait lui-même, c'est ça, c'est la question qu'elle a posée. Elle a dit, mais pourquoi pas moi? Et elle lui a dit, vous étiez accompagné. Et donc, vous avez les policiers, tout ça, ils ont... L'autre lui dit, mais vous aviez quelqu'un avec vous. Vous aviez un homme à vos côtés, qui marchait à vos côtés, donc je n'allais pas vous attaquer. Et elle... Il n'y avait personne à côté de moi, donc au moins son ange gardien s'est matérialisé pour lui, ou a agi sur son imagination pour qu'il voit qu'elle... Mais là, vous voyez, l'ange gardien... Alors, il faut se méfier, il y a des bouquins entiers sur les interventions des anges. Il y a à boire et à manger, il y a des choses complètement fausses, inventées, qui discréditent la foi. Et donc, il faut faire très attention. Mais là, cette histoire-là est très, très vraisemblable. Elle n'est pas trop bizarre, tout ça. Enfin, elle est à la fois surnaturelle, hein, c'est quand même miraculeux. On ne voit pas quelqu'un alors qu'il n'existe pas.
Et est-ce qu'il est possible qu'un ange gardien rentre dans le corps de quelqu'un pour lui faire faire une bonne action afin de protéger quelqu'un, enfin comment dire,
mécaniquement à ce moment-là.
Oui.
Mais il peut pas rentrer dans l'âme. L'âme est un sanctuaire. Personne ne peut savoir ce que vous pensez, sauf Dieu et à qui il le révèle. Donc Dieu peut révéler à la Vierge Marie, à votre ange gardien, à quelqu'un, quelque chose que seul vous ou un homme, le curé d'Ars, Dieu lui révélait la vie de ses pénitents.
Donc là, ce que je pense en ce moment, mon ange gardien, il ne le sait pas.
Sauf si Dieu lui révèle.
D'accord.
Personne ne peut rentrer dans votre âme. Par contre, les cas de possession qui sont extrêmement, extrêmement rares, contrairement aux films américains, mais il y en a, c'est vrai, ça existe, le démon rentre dans votre corps et cohabite avec votre âme. Mais il n'est pas dans votre âme.
Il ne nous entend pas penser.
Comment ?
Il nous entend penser.
Non. Ben, sauf si on parle, si on exprime sa pensée, bon. Mais on est totalement autonome et totalement libre. Alors ensuite, il y a des maladies mentales. Hein, donc là, on entend, c'est l'imagination qui tourne en boucle. Hein. Donc on peut entendre des voix, on peut machin, mais qui sont nos voix, notre imagination.
Notre âme reste intacte.
Vous voyez, un rêve qui vient de toutes les images qu'on a emmagasinées, c'est un rêve. Des images qui viennent d'ailleurs, c'est ou de Dieu, ou des anges sur ordre de Dieu, ou des démons, et ce sont des songes. Oui. Et alors les voyantes ne connaissent pas l'avenir. Pourquoi ? Parce que d'abord elles invoquent les esprits démoniaques, même lorsqu'elles pensent invoquer Dieu, parce que Dieu nous dit « je vous interdis de vouloir connaître l'avenir ». Oui, c'est pas gentil, on pourrait pas un peu, il n'y a pas une voyante, une spirite qui pourrait m'aider un peu, de savoir si je vais gagner mon examen ou pas. Non, l'avenir m'appartient. Celui qui veut connaître l'avenir ne me fait pas confiance. Donc toute personne qui vous promet l'avenir, si c'est un bon psychologue, il pourra y aller, mais sinon c'est une chance sur deux. Quoi. Par exemple, vous êtes jamais étonné quand même qu'un spirite, alors qu'il peut invoquer Lucifer en personne et tout ça, ou une personne qui dit avoir des flashs, n'ait jamais gagné au loto, qu'il n'ait jamais eu le flash de 9 numéros ou de 3 numéros du tiercé, enfin 3 numéros du tiercé pour gagner 1000 euros, quoi. Enfin, de temps en temps, quoi. Enfin, jamais aucun voyant, aucune voyante n'a pu connaître un jeu de hasard. Jamais. Et quand il y en a un qui l'a, ben il a, ça lui arrive autant de fois que n'importe qui, donc c'est du hasard. Jamais il n'a une connaissance du futur régulière et précise. Jamais, jamais, jamais.
Et pourquoi on nous dit de temps en temps, si notre ange gardien ne connaît pas notre pensée, etc.
Dieu le lui donne.
Ah, ok.
Ben parce que c'est notre ami.
Il veille sur nous.
Ah oui, et la Vierge Marie ne connaît pas nos pensées, mais Dieu, Jésus lui donne tout. parce qu'elle est responsable en partie de notre bonheur, donc elle veut tout savoir, elle va avoir toutes les cartes en main pour ensuite négocier avec son fils. Bon, alors, tu peux lui obtenir cette grâce non, c'est pas bon pour lui, il vaut mieux qu'il soit malade. Oh, vous vous rendez compte? Ça va le faire réfléchir, tout ça, ça va provoquer de l'amour autour de lui et tout. Mais tu te rends compte, pour les humains, une maladie. Mais voyez-vous, je caricature, mais il y a de ça. Parce que la Vierge Marie, vous voyez, le premier miracle, on le verra la prochaine fois, si on le tout, c'est Cana. Hein. Et Marie dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Femme, c'est-à-dire Ève. C'est pas femme, hein, c'est je suis le nouvel Adam, tu es la nouvelle Ève. Hein. C'est très très beau dans la bouche de Jésus, femme, à Marie. Hein. C'est la femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi pour que tu me demandes ça? Un miracle. Or, un miracle qui va me révéler, parce que changer de l'eau en vin, c'est créer de la matière. C'est créer les atomes qui ne sont pas dans l'eau. Donc il n'y a que Dieu qui puisse créer. Donc elle est là en train de lui dire, révèle-toi comme Dieu, hein, pas seulement comme Messie. Et mon heure n'est pas venue, l'heure de Jésus, c'est sa mort sur la croix. C'est-à-dire, dès qu'il se révèle, les hommes vont vouloir lui dire, mais puisque tu es le Sauveur, le Messie, donne-nous le pouvoir, donne-nous la santé et la prospérité pour toujours. Et Jésus n'est pas là pour ça. Il est là pour partager nos souffrances et pour nous donner l'espérance de la vie éternelle. Donc, ni la santé, ni l'argent. Que les religions païennes demandent à Dieu. Mon heure n'est pas venue. Mon heure de montrer mon amour pour l'humanité, d'accepter la haine et d'être crucifié. Eh bien, la Vierge Marie, elle ne se démonte pas. Elle se tourne vers les serviteurs et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, Jésus leur dit, eh bien, prenez l'eau. Et donnez-la au maître du festin. Et donc les serviteurs prennent l'eau, et l'eau est échangée en vin. Et quand Dieu fait un vin de rien, ça doit être un de ces vins. À côté, un Romani Conti, ça doit être de la piquette. Ils ont apporté le vin au maître du festin, au maître de cérémonie. Il a goûté ce vin. Alors là, c'est pas boisé, machin truc, hein, c'est... ça devait être une explosion dans sa tête. Et il a dit aux fiancés, aux époux, d'habitude, dans un festin, on sert le meilleur vin au début et le moins bon quand tout le monde a les papilles grillées. Et toi, tu as réservé le meilleur vin. Mais le meilleur vin, pour le maître du festin, c'était fou. Eh bien, il prophétisait. Vous voyez, c'est un brave, épicier, n'est-ce pas ? Et il est là, il prophétise, parce que qu'est-ce qu'il dit de Dieu ? Que dans les premiers temps de l'humanité, c'est la guerre, c'est la haine, c'est la polygamie, c'est la souffrance. Dans les derniers temps, que Dieu réserve ? Son amour. Un enfant, un bébé, une maman, doux et humble de cœur, crucifié... et ressuscité. Donc le meilleur vin est réservé après des milliers d'années de guerre, d'atrocité, et il y en aura encore. Mais quand les chrétiens ont fait des guerres entre eux jusqu'au XXe siècle, c'est toujours en trahison de l'Évangile. Ouais. Voilà. Alors vous voyez, aujourd'hui, je vous ai simplement dit... pourquoi vous faites une préparation chrétienne ? Il faut savoir un peu où on met les pieds, pourquoi il y a des crucifix, pourquoi on parle d'Abraham, pourquoi on parle d'Israël, pourquoi on parle de la Terre Sainte, pourquoi on parle de Pâques. Il faut resituer un peu les choses. Parce que vous tous, vous n'avez peut-être pas forcément eu un catéchisme plus ou moins développé, ou vous l'avez eu par culture, à l'école, dans des visites d'église. Et donc je me dois, même si vous êtes, au contraire, vous avez une licence en théologie, ou machin, je dois de vous resituer Dieu, son amour, la création humaine. Voilà. Donc si vous n'êtes pas trop saoulé, ben, rendez-vous jeudi prochain. Mais quand même, avez-vous des questions ?